Bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous amener quelques informations complémentaires que je n'ai pas pu bien sûr vous mettre dans les vidéos précédentes. Donc, je rajoute des petits compléments. Hein? Voilà, donc ici, eh bien, je reprends notre double, notre tort, on va dire, hein, où je vous avais indiqué qu'il y avait un mouvement contre-rotatif entre deux tors, hein, délimitant ainsi une épaisseur, ou ce que j'appelle une couche d'oignon entre les différentes dimensions. Car vous savez bien maintenant qu'il y a, on va dire, autant de tors contre-rotatifs qu'il y a de dimensions. Alors ici, j'ai représenté une petite coupe, hein. On reprend ceci en coupe et on le regarde ici et nous allons retrouver effectivement, on va dire, notre fameux vortex ou trou noir, trou blanc, comme vous voulez. Et avec les deux surfaces. Simplement, cette fois-ci, nous allons aborder la chose, on va dire, sous l'angle rotatif. Alors, je vais d'abord commencer à mettre cette image ici. Voilà. Donc, ici, nous avions une vision matière, hein, je vous rappelle, qui est donc, on va voir, une vision extérieure. Hein. Nous avions forcément en correspondance une vision antimatière et donc une vision intérieure. Donc là, eh bien, je vais représenter le sens de rotation, c'est-à-dire que si ce tore-là tourne dans l'axe, dans ce truc-là, eh bien, ça veut dire qu'il y a un sens de rotation dans celui-ci. Forcément, ce sens de rotation va apporter une rotation, on va dire, dans ce sens-là. C'est-à-dire que ici, ça va tourner comme ça. Le vortex va tourner comme ça. Alors là, on parle d'un trou noir, mais c'est pareil. Donc ici, eh bien, vous allez le voir tourner dans ce sens-là. Et forcément, point besoin d'être sorti de Polytechnique pour comprendre que quand ça va tourner dans ce sens-là, eh bien, nous allons effectivement voir tourner le vortex dans ce sens-là. Voilà, donc vous avez bien un mouvement contre-rotatif. Donc ici, comme ça vient dans un sens et l'autre dans l'autre sens, eh bien ça entraîne le vortex. Donc le vortex, d'une certaine manière, tourne grâce à cette double contre-rotation, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on voit que tout tourne dans l'univers. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Alors, l'autre chose que je voulais vous rajouter, c'est que ici, cette vision matière, cette vision, on va dire, de l'extérieur, car nous regardons les choses à partir de l'extérieur, eh bien, ils sont en relation effectivement avec nos sens classiques, hein, ce qu'on appelle les cinq sens de base, hein, qui, je vous le rappelle, c'est le minima syndical. Et ce minima syndical, bien forcément, on voit, on touche, on entend. Comment dire, on sent, hein, une odeur ou un parfum, ou on peut goûter. Mais pour cela, il faut de la matière. Donc ici, eh bien, bah, vous avez forcément l'opposé, puisque c'est intérieur. Eh bien, là, vous aviez, entre guillemets, une vision. Bah, là, vous allez avoir une claire vision. Parce que ici, la vision n'est pas claire. Hein. Ici, vous allez avoir un toucher, ce qu'on appelle un ressenti. Ici, vous allez entendre ce qu'on appelle la clairaudience. Ici, ça s'appelle la clairsentence. Et ici, ça s'appelle, on va dire, comment goûter les EDL. Hein? Bon, il y a plein de sens. Il y en a beaucoup plus que les cinq. Vous savez, c'est extrêmement limité quand on parle en moins de ça. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article il y a quelques années de ça, donc il y a une éternité, pour vous dénombrer, hein, ce que j'ai appelé l'arithmétique des sens. C'est-à-dire que quand on ne parle que des cinq sens, on est un boucher à l'émeric total. Hein? Parce que j'en ai au moins trouvé 20. Donc, vous voyez, on est très très loin du compte. Donc, quand j'entends quelqu'un dire oui, mais nous avons un sixième sens, on peut dire oh, il commence peut-être déjà à mettre le nez dehors celui-là. Bien, alors, non, bien, je vais aller un tout petit peu plus loin puisque j'ai intitulé quand même le titre Dimension, conscience et ascension, car il faut maintenant comprendre que, bon, les dimensions, vous voyez que ce tore, hein, ce double tore, enfin, disons ce tore avec un mouvement contre-rotatif qui fait la matière et l'antimatière, donc l'information, c'est-à-dire le temps, et aussi en même temps, bah, la matière sert une information qui est bloquée sur elle-même, eh bien, il y avait au milieu la conscience. Hein, j'avais appelé ça le champ de conscience. Et donc, pour résumer par rapport à la dernière fois ce que j'ai dit, c'est que ici, vous avez le sans-nom, ici, vous avez la source, et ici, vous avez le créateur incarné. Et le créateur incarné, c'est nous. Donc, vu sous un angle différent, eh bien, ici, dans cet espace, c'est l'esprit. Donc l'esprit est coincé entre deux choses, c'est-à-dire c'est le chauffeur du véhicule qui vient se mettre dans un véhicule. Donc nous verrons cet aspect dit fractal dans un autre article, parce que dans celui-ci, ben, je ne peux pas, j'ai d'autres choses à dire avant. Donc nous reverrons dans les articles futurs, on va revenir sur trois choses fondamentales qu'il va falloir comprendre de telle manière que vous puissiez, on va dire, entrevoir avec vos sens intérieurs surtout, puis moi avec une petite compréhension aussi mentale qui peut être intéressante, comment fonctionne cet univers, mais surtout pourquoi il est à la fois holographique, pourquoi il est à la fois quantique et pourquoi il est à la fois fractal. Donc tout ça, ce sont des mots avec des, on va dire, des compréhensions limitées, hein, par rapport à ce qui vous est donné. Donc j'aborderai, on va dire, ces notions-là sous un angle toujours aussi pédagogique, avec une simplicité exemplaire pour vous faire comprendre que parler de sens quantique, il n'y a pas besoin d'être sorti de polytechnique. Et encore moins pour les fractales et la vision holographique. Un gamin, on va dire, à 5-6 ans, il comprendrait ce que je vais lui dire. Vous voyez, c'est bon. Donc il ne faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Donc là maintenant, je vais regarder sous l'aspect, on va dire, des dimensions et de la conscience afin de pouvoir vous parler de l'ascension. Parce que il y a d'autres façons de voir, afin que vous compreniez qu'il y a des freins que vous mettez systématiquement, hein, surtout concernant les dimensions. Car je vous rappelle, quand vous dites « Ah là là, on est en 3D, il faut passer en 4D, c'est déjà le bordel », alors que s'il faut arriver en 24D pour aller jouer sur Elea, on est mal barré. Alors, c'est vrai et c'est faux. Donc, on va regarder les deux côtés, comme ça, eh bien, vous allez vous faire une idée quelles sont les deux possibilités. Il y a, comme dirait l'autre, une voie rapide, et puis il y a une voie extrêmement lente. Et donc, il y a, vous allez le comprendre, une voie qui va être une vision extérieure, matière, et une voie lente, et une voie rapide. Voilà. Hein. Donc, nous allons maintenant aborder la suite du sujet. Donc, pour cela, eh bien, je vous rappelle que les dimensions sont effectivement, les torts sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, pour des raisons de facilité, je ne représente que les parties, on va dire, principales. Hein, c'est-à-dire que ici j'ai mis le cube 3x3, le cube 6x6, 12x12 et 24x24. Donc c'est juste pour donner les grandes lignes par rapport au grand cube, parce que plus nous allons avancer dans la description, on va dire, de l'univers, et plus vous allez voir où se situent les anges, les archanges, comment ça joue, sur quelle géométrie, et en fait combien on s'est fait avoir par les écritures et tout le flanflon des gens qui ont intellectualisé, on va dire, la spiritualité. Je vous rappelle que spirit, hein, ça veut dire esprit. Hein. Spirit, esprit, c'est vous mettez un E devant le spirit et vous avez esprit. Donc, quelque part, la spiritualité s'est vue complètement collée sur une vision extérieure matérielle en vous disant « oui, mais Dieu, ceci, les anges, cela, les archanges, ceci, et tatati, et tatati, et tatata ». Résultat, c'est il n'y a pratiquement, si vous regardez un scientifique, si vous lui dites « d'ici, s'il te plaît, si tu vois un archange sous le microscope, tu me le dis parce que là, je serai intéressé ». Et de toute façon, si un scientifique disait « oui, ça y est, j'ai trouvé un ange sous le microscope », croyez-moi, qu'il va perdre son statut, on va dire, dans l'organisme scientifique dans lequel il est. Donc, on voit bien qu'il y a une exclusion entre, on va dire, une certaine forme de religion, parce que la science est une religion, je vous rappelle, c'est une religion dogmatique. Elle ne voit que l'aspect matière, elle se dit, waouh, 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 s'il y a quelque chose, c'est que c'est forcément physique. Et puis, bien sûr, elle ignore totalement l'autre côté. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire que la science n'est qu'une partie très limitée de la véritable création. Par contre, ceux qui sont totalement versés dans le spiritualisme et machin et trucs sont complètement, à l'inverse, complètement brouillés par, on va dire, toutes les falsifications qu'il y a eu par rapport aux différents écrits et aux différents enseignements. Bon, je crois que maintenant c'est clair pour vous. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est presque opposé les deux sens. On dit, si tu es scientifique, tu ne peux pas être spirituel. Et si tu es spirituel, tu ne peux pas être scientifique. Bah, mettez-vous au milieu, vous verrez que c'est parfaitement compréhensible. Quand le 2 fera 1, eh bien, tu es assis au milieu et tu regardes tout le monde et tu souris. Alors, maintenant, eh bien, on va regarder sous un angle autre, on va dire, ces différents aspects des dimensions, parce que bah, vous allez voir que c'est assez surprenant. Donc je vais partir d'une image, comme d'habitude, et sachant que, vous savez, on a un individu, comment il s'appelait déjà celui-là, Newton. Ah oui, voilà. Newton a été rendu célèbre parce que en piquant un roupillon sous un arbre, il a vu une pomme tomber, soi-disant sur la tête. Ça a marqué, ça y a peut-être fait des connexions neuronales, et il a découvert ce que des millions d'individus n'avaient pas découvert depuis des milliers d'années, et qu'on appelle la gravitation. Donc il s'est dit, si ça descend, c'est qu'il y a quelque chose qui tire vers le bas. Bien sûr, vous allez me dire, tout le monde marchait, tout le monde savait qu'il y avait la gravitation, mais personne n'avait mis un mot dessus. Alors, on va dire que Newton est devenu célèbre à cause d'une pomme. Alors, j'ai une petite prétention, c'est devenir aussi célèbre en parlant de la pomme. Vous voyez, hein, on va rigoler un tout petit peu aujourd'hui, parce que bon, c'est bien de dire des tas de trucs, mais il faut relier ça, on va dire, au quotidien, parce que je vous rappelle, et ça c'est l'aspect, on va dire, fractal, que cet aspect fractal se retrouve à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous décrire, qui se passe par exemple au niveau d'un univers ou d'un individu, eh bien, se passe au niveau d'une pomme. Vous voyez, c'est fractal, c'est-à-dire que quelle que soit la taille qu'on va regarder, et l'avantage, c'est qu'on peut aller acheter des pommes partout et la couper en deux, voir ce qui se passe et comprendre quelle est la mécanique qui est derrière. Car les lois divines, les lois fondamentales, sont simplement sous vos yeux et le vous la croquez à pleines dents. Alors, on sait que quand on coupe une pomme en deux, eh bien, il va y avoir, disons, plusieurs parties. Il va y avoir une partie, bon, on a la peau extérieure, nous sommes bien d'accord. Il va y avoir un espèce de truc qui sépare ici. Hein, on le voit hein, généralement dans les pommes. Là, j'ai pas d'image, mais bon, vous comprenez, il suffit de prendre une pomme et la couper, puis vous le verrez bien. Et ensuite, eh bien, vous avez effectivement une seconde membrane à l'intérieur, vous avez des pépins. Alors, pour des raisons de facilité dans l'immédiat, je vais mettre cette image de côté et en prendre une autre que j'ai, on va dire, coloriée, histoire de rendre les choses plus claires au niveau de l'œil dans un premier temps. Donc ici, eh bien, on va dire, moi je suis parti d'un truc simple, je me suis dit, voilà, ici, ce cube, ici 24 par 24 que je vous avais décrit, c'est tout simplement, on va bouger par là un petit peu, c'est tout simplement la peau. Donc c'est bien une galaxie et il y a bien une peau. Voilà. Et puis s'il y a une galaxie, c'est forcément rempli de quelque chose. Alors je vais chercher le cube 12 par 12. Hein, celui-ci, c'est-à-dire quelque chose de physique. Alors attendez, je vais essayer de remonter ça parce que je suis parti un peu bas, comme on dit. Hop, voilà. Alors celui-là, je le mets là. Et puis on va voir que cette frontière qu'il y a là, eh bien, ça serait mon cube 12 par 12. Après, on peut continuer. Je vais dire, ici j'ai un cube 6 par 6 à l'intérieur. Et qu'est-ce que je vois dans ce cube 6 par 6? Eh bien, je vois que c'est la deuxième frontière qu'il y a intérieure dans laquelle il y a le pépin. Hein. Et puis, forcément, si on continue la musique, on va se dire, attends, le cube là, 3 par 3 qui est au milieu, là, il est où? Eh bien, c'est tout simplement le pépin. Or, vous savez que nous, en tant qu'humains, on est des pépins sur pattes, dans le sens que nous avons effectivement, bon, c'est pas le bon dessin, donc c'est pour ça que je ne peux pas aligner, mais comprenez, dans la logique, que ici, quand nous regardons une pomme en deux, vous avez la galaxie sous les yeux. Grosso modo, ça serait à l'image que quand vous regardez un atome, si vous pouviez le voir avec vos yeux, quand vous regardez en fait un atome, hein, c'est-à-dire un noyau avec des électrons qui tournent autour, c'est comme si vous regardiez un système solaire avec un soleil et des planètes qui tournent autour. Donc ici, rien de bien, extraordinaire. Donc maintenant que vous avez compris ceci, eh bien, je vais remettre l'autre image pour faire un dessin qui tienne à peu près la route quand même. Hein, parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites quand même. Et bien voilà, donc ici je réorganise tout ça, voilà, donc j'ai le pépin ici, donc une graine, et donc et bien vous comprenez que le pépin est d'abord le cube 6 par 6, le cube 6 par 6, je vous rappelle que c'est votre corps physique, hein, et le pépin entre guillemets, ça correspond à votre cube 3 par 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce cube 3 par 3? Eh bien, c'est simple, il y a un voile de l'oubli. Or, comprenez que ce voile de l'oubli n'est ni plus ni moins que le premier voile de l'oubli. Hein, donc, c'est l'écorce. C'est l'écorce du pépin. Donc, à l'intérieur du pépin, si on l'ouvrait, ben vous allez retrouver dedans, enfin, c'est-à-dire deux cotylédons, hein, c'est-à-dire deux hémisphères cérébraux, avec tout simplement un mental dedans. Donc, on est bien dans le cube 3 par 3. Quand la graine va se mettre à pousser, eh bien, il est évident qu'il faut qu'il passe le premier voile de l'oubli. Et une fois qu'il a passé le premier voile de l'oubli, il va pouvoir y avoir un germe. Et donc, c'est ce que je vous avais dit, on parle d'une étincelle d'esprit qui passe particule d'esprit, qui passe ensuite germe christique. Car vous comprenez que quand on est dans le cube 12 par 12, nous ne faisons que développer le germe christique. En clair, eh bien, vous avez un arbre qui est en train de pousser. Enfin, un germe qui est en train de pousser. Et donc forcément, ce germe, eh bien, il va mettre le nez dehors. Or, si vous regardez bien en termes d'ascension, je vous avais parlé que vous aviez la source. Alors ça, c'est la branche du pommier avec les fleurs, hein, et les feuilles. Et donc, vous avez la sève du cendron de la source qui descend et qui fabrique une fleur. Donc ici, ben, je vous rappelle que ça, ce pédoncule, eh bien, c'était, on va dire, la queue de la fleur. Ici, c'est le reste des pétales. Les pétales sont partis, mais il restait là une espèce de corolle, en fait. Et l'énergie du cendron s'est petit à petit accumulé ici et a fait gonfler et ça a donné un fruit. Et ce fruit est forcément constitué en termes de structure de la même façon que tout ce qui a été fabriqué dans l'univers. Et pour cause, c'est normal, c'est le même constructeur. Donc maintenant, pour vous faire comprendre, c'est que ça s'appelle une descente dans la matière. C'est-à-dire que vous avez la sève qui arrive et qui petit à petit va s'accumuler et va donner un fruit. Et ce fruit, bien, entre autres, il va subir plusieurs opérations. Soit il se fait bouffer par les oiseaux, les abeilles, les machins, enfin bref, quoi, il est bouffé sur place, soit il tombe et il se fait pas bouffer et il va pourrir. Et en faisant cela, eh bien, la graine va pouvoir, puisque les enveloppes extérieures vont disparaître, il va pouvoir, grâce à cela d'ailleurs, il va pouvoir se mettre à pousser. Et donc, en poussant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va devenir un arbre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la particule d'esprit, hein, c'est-à-dire rappelez-vous, notre esprit directeur, lui, est, vous voyez, entre le 12 par 12 et 24 par 24, il est juste là, et eh bien, il envoie son petit germe d'esprit, là voilà. Et donc, à fur et à mesure que le germe se développe, hein, que la particule, l'étincelle d'esprit se développe, eh bien, il va recréer ce qui est en lui et qui lui était totalement inconnu. Car une pomme ne sait pas qu'elle est une pomme. Elle ne découvrira, on va dire, qu'elle est une pomme que quand elle sera devenue un pommier. C'est-à-dire qu'elle aura mis le nez dehors, hein, par rapport au terreau, et qu'elle aura dépassé le statut de la pomme, c'est-à-dire de la galaxie. Donc en clair, quand un individu germe, c'est-à-dire qu'il est déjà devenu, on va dire, christique, hein, il a germé suffisamment, à ce moment-là, eh bien, il va dépasser ce stade de la peau et va foutre le nez dehors, entre guillemets, pour pouvoir exprimer, on va dire, au cendron, tout ce qu'il a pu acquérir comme expérience tout le temps qu'il a grandi en tant que pomme. Car au départ, il n'était qu'une fleur. Donc, vous voyez que quand on dit qu'il y a une descente dans la matière, elle se concrétise selon une structure. Et quand cette structure vient, on va dire, à fusionner dans le sens que petit à petit, bah, la graine comprend qu'il faut qu'elle grandisse et va se servir de tout cela, et bien à ce moment-là, elle va pouvoir grandir et rapporter au cendron l'expérience de ce qu'est une pomme. Je crois que quand vous allez manger des pommes maintenant, vous allez voir les choses sous un angle différent. Donc vous voyez qu'il y a une relation directe entre les dimensions et avec l'ascension. L'ascension, c'est monter en fréquence. Et monter en fréquence, c'est quoi? Bah, c'est de passer de la plus basse densité à la densité la plus haute. Voilà. Donc la pomme était bien entourée, était bien dans l'air. Elle tombe par terre, elle pourrit, entre guillemets. Et ensuite, eh bien, grâce à ce pourrissement, ça met en œuvre. Ça donne le déclic, clac, il faut retourner à la source. Et donc retourner à la source, eh bien, c'est que vous allez grandir. Alors, eh bien, vous pouvez voir que quand on regarde sous cette forme-là, si vous prenez une vision extrêmement, on va dire, extérieure, c'est-à-dire que quand vous êtes là et vous regardez à l'extérieur, vous savez, quand on est dans le cube 3x3, ou voire 6 par 6, et que nous regardons dehors, d'abord dans le 3 par 3, notre mental regarde, il voit notre corps physique. Donc il associe notre corps physique à ce que l'on est, ce qui est absolument faux. Ensuite, bien, quand il regarde dehors, ben, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit des constellations, il voit des étoiles, il voit des tas de choses, mais il a une vision extrêmement extérieure. Donc ça veut dire qu'il ne comprend rien à ce qu'il est véritablement. Si il va en vision intérieure, il comprend à ce moment-là qu'il est esprit, qu'il n'est pas la matière, mais qu'il n'est pas l'antimatière non plus. C'est-à-dire que l'antimatière, je vous rappelle que c'est tout simplement de l'information. Donc vous êtes toujours bien un esprit dans votre point zéro, et que vous accédez à l'information, et vous êtes dans la matière. Donc ici, dans le dessin précédent, je vous avais parlé de ceci, c'est-à-dire le sandwich de la création, vous êtes le créateur incarné en étant là. Ok, alors ça c'était dans une couche, hein, on comprend, c'était dans une couche, comme je l'ai indiqué ici, mais maintenant, si vous voyez toutes ces différentes couches, ben, vous allez voir que cette espèce d'esprit qui est là, il est bien dans toutes les couches, dans tous les cubes. Et comme par hasard, quand vous êtes au point zéro, eh ben, vous êtes, on va dire, en connexion la plus étroite avec tous les cubes. Et c'est là que intervient cette notion de dire, oh là là là, si on est en 3D, 4D, et qu'il faut aller se barrer en 5D, 6D, ça va prendre déjà du temps, sachant qu'on a mis des milliers et des milliers et des milliers d'années qu'on reste en 3D, 4D. Donc comprenez que ça c'est une vision quand on part, on va dire, sur un plan spatial, X, Y, Z. C'est-à-dire qu'on regarde les choses de l'intérieur et on se dit, voilà, il va falloir aller là, puis aller là, puis aller là, puis après aller là, waouh, 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 waouh. En fait, c'est faux. Ça, moi, c'est faux. C'est une vision c'est totalement linéaire et 3D, puisque la 3D, je vous rappelle, est rattachée à une vision X, Y, Z. Une notion d'espace. Donc ça nous paraît vachement loin. Mais quand vous avez une vision dite temporelle, eh bien, vous allez comprendre que, quand je dis temporelle, rappelez-vous encore cette vision-là. Le fait de passer en 5D, 6D, c'est que vous n'êtes plus dans la matière X, Y, Z qui regardait un fil du temps lumière, mais que vous êtes dans un maelstrom, on va dire, temporel, c'est-à-dire un paquet d'informations dans lequel une vision X, Y, Z va se faire dans l'instant présent. Donc vous pourrez regarder toutes vos vies antérieures en même temps, vous les vivez toutes en même temps, mais vous regarderez ce scénario-là. Or, maintenant, si je remets le dessin avec les différentes imbrications dimensionnelles, eh bien vous remarquerez que quand vous êtes là, eh bien ça va être d'une facilité déconcertante, qui n'a absolument aucun rapport en disant je dois passer d'un espace Y, Y, Z à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, donc qui fait des années-lumière, qui fait des quantités phénoménales de distance, mais qui dans la réalité, il n'y a pas de distance. Parce que quand vous êtes au point zéro, la totalité, je dis bien, le centre de gravité de votre point zéro, bien le centre de gravité de la totalité de tous les cubes ou de tous les torts. Donc, quand vous vous rapprochez de votre point zéro, vous vous donnez la possibilité, en fait, ni plus ni moins, d'être en connexion avec toutes vos dimensions. Donc, quand on parle d'ascension, quand on parle d'augmenter votre fréquence, eh bien, vous savez que chaque dimension, c'est une fréquence supplémentaire. Hein? Vous savez, comme les touches de piano, quoi. Hein, c'est-à-dire que vous appuyez sur le do, puis après sur le ré, le si, ta-ta-ta-ti, ta-ta-ta. Donc, vous montez en fréquence. Et le fait de monter en fréquence fait que, ni plus ni moins, quand vous êtes au centre ici, petit à petit, vous voyez comme une rondelle d'oignon. Vous savez, comme un oignon que vous avez coupé, vous voyez les différentes rondelles, mais vous êtes au centre. Et donc, vous agrandissez ici, mais vous n'êtes pas en train de vous balader là. Si vous pensez aller vous balader comme ça, c'est parce que vous pensez prendre, on va dire, un vaisseau spatial, et puis dire il faudra tant d'années-lumière pour aller, enfin tant d'années ou tant de siècles pour aller sur Mars, il va falloir... Tout ça, c'est une vision absolument, on va dire, 3D, qui, en fait, est totalement fausse. Parce que quand vous êtes là, il suffit simplement d'augmenter votre fréquence et vous touchez, en fait, directement les cônes des différentes dimensions. Et donc, c'est extrêmement rapide. Donc, plus vous restez centré, plus vous êtes en paix mentale, c'est-à-dire vous arrêtez de vous arracher les cheveux par une vision extrêmement matérialiste, qui dit, par exemple, temporellement, « Ah oui, si je reprends, vous savez, l'ânerie fondamentale qui est celle-ci, si je modifie mon passé, alors si, par exemple, je tue mon père, comment je pourrais naître ?» C'est sûr que là, on est coincé dans ce genre de raisonnement. Parce qu'il est totalement faux et infondé. Donc, voyager dans le temps est une ânerie dans le sens linéaire du terme. Mais par contre, voyager dans le temps sous cette forme-là, ça va être de l'enfance de l'art. Puisque je vous rappelle que ce qui tournera autour de vous, ce sont tous les fils du temps. Donc, vous pourrez voyager dans le temps comme vous voulez, tac, 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 pas de problème. Et pour ça, vous n'aurez même pas besoin de bouger votre cul du fauteuil. Donc, vous voyez que où la science peut vous emmener quand les choses sont extrêmement limitées, conceptuellement parlant. Alors, maintenant, bah, écoutez, comme je vous ai dit ça, vous avez compris que ici, nous sommes conscience, nous sommes esprit coincé dans un sandwich. Mais ça va pour une dimension. Et il y a plein de dimensions. Mais globalement, on va dire que ces dimensions-là, telles que je les ai nommées, les 3 par 3, les 6 par 6, les 12 par 12 et les 24 par 24, sont, on va dire, des dimensions frontières. Donc ici, vous comprenez que le cube 3 par 3, c'est tout simplement l'écorce du pépin. Donc si vous dépassez l'écorce du pépin, ça veut dire que vous êtes en train de germer. Et si vous germez, à ce moment-là, bah, vous tombez dans un autre monde qui n'a rien à voir avec le bordel qu'il y avait dedans. Donc quand vous restez enfermé en 3D et que vous ne voyez que la 2D et la 1D, c'est-à-dire, on va dire, la nature et les cailloux, eh bien, dites-vous bien que vous allez crever sur place. Enfin, excusez-moi le terme, mais vous allez vous ratatiner. Et d'ailleurs, c'était le cas. C'est-à-dire, ça se flétrit. Par contre, dès que vous commencez à mettre le nez dehors, vous dites oh là là, dis donc, il y a de la vibration là dans ces trucs-là. Ah, je vais devenir peut-être un peu moins con. Excusez-moi des termes, mais c'est à peu près ça. Et donc, vous allez vous gonfler par la vibration du cœur. Et en vous gonflant par la vibration du cœur, c'est-à-dire la 4D, eh bien, c'est que vous êtes à l'extérieur de cette écorce. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir expérimenter le cube 6 par 6. C'est-à-dire découvrir que votre corps est votre véritable temple. Mais il est un véhicule, une voiture, une bagnole, un camion. Mais n'est pas l'esprit. Donc, partant de là, comme tout. Tous les torts passent au même endroit, ben, vous pouvez imaginer ici que autant les couches d'oignons pourraient être spatialement espacées, autant quand c'est au milieu, sont toutes serrées les unes contre les autres. Hein? Donc là, j'ai pas fait les dessins, je pensais faire ça dans une autre vidéo, mais bon, hein, j'y suis, comme dirait l'autre, c'est pas que j'y reste, mais j'en profite, je vous fais part de mes petites choses tout de suite. Alors, ici, maintenant, en allant un tout petit peu plus loin, bah, si vous dites, ah oui, mais attends, le cube 24 par 24, ouais, c'est la galaxie, je comprends qu'il y a un truc, un machin. Oui, mais le cube 24-24, c'est quoi? C'est tout simplement le grand soi. Ce n'est que vibration. Donc toute la chair, ici, ce qui est appelé la chair, n'est que vibration. C'est du féminin, ça se goûte, c'est juteux, ça fait du bien. Ensuite, bah, le cube 12 par 12, on a vu que à l'intérieur donc du cube 12 par 12, tout ce qui est à l'intérieur, c'est la partie, on va dire, matérielle, dure, hein, d'une certaine manière. Et donc, on sait que ce qu'il y a entre le 12 par 12 et le 6 par 6 s'appelle tout simplement le soi, hein, supérieur, votre petite voix. Or, comment voulez-vous qu'une graine grandisse si elle ne cause pas déjà avec celle-ci, avec cette partie-là? Vous voyez? Donc, si elle ne cause pas avec cette partie-là, elle ne peut pas savoir qu'elle est une graine. C'est le minima syndical. Vous allez me dire, c'est méchamment logique, mais c'est vrai que c'est une logique qui a échappé à beaucoup de gens. Alors, ensuite, eh bien, on peut dire aussi, attendez, hop, je vais mettre ça, voilà. Ici, eh bien, nous savons que le cube 6 par 6 contient le soi inférieur. Donc, on peut voir qu'entre les pépins, ce qui tient les pépins par rapport au corps extérieur, eh bien, c'est le soi inférieur. Et que dans tout ce soi inférieur, il y a des pépins. Et ces pépins, c'est les cubes 3 par 3. Bon, j'espère que ce voile de l'oubli, hein, qui est là, l'écorce du pépin, et bien sûr, la dimension la plus proche, hein, bah c'est quoi? C'est votre mental. Donc, on a bien un problème, enfin, de mental égo. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un ego. Un ego, c'est fait pour tenir la chose. C'est pour dire, voilà, 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 c'est moi. Mais une fois que vous avez dépassé l'ego, ça veut dire que vous avez commencé à germer. Donc vous passez de l'étincelle d'esprit à la particule d'esprit. Et si vous franchissez cette frontière d'une manière consciente, ben, ça veut dire que vous passez dans cette zone-là, eh bien, vous développez votre germe christique. Et donc forcément, quand vous avez développé votre germe christique, à ce moment-là, d'une certaine manière, à fur et à mesure que vous allez avancer, bah, ceci qu'on appelle l'absolu vous tombe dessus. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, c'est lui qui vous tombe dessus. Et vous savez, je vais vous dire ça, c'est très logique. Eh bien, plus vous allez grandir ici, plus vous allez sucer. Et donc, plus vous allez sucer, plus la pomme va en fait se ratatiner. Donc, c'est l'absolu qui va venir à vous. Pourquoi? Parce que la distance entre vous, enfin, votre particule ici qui est au centre et là, va se ratatiner au fil du temps. Puisque vous savez que ici, comme tout est concentré, eh bien, vous allez pouvoir voyager. Et donc, tout ça, ça va s'écrouler sur elle-même. Donc, en clair, quand un individu, on va dire même, on va aller plus loin, un couple d'individus, mâle-femelle, puisque quand nous sommes, on va dire, dans un corps masculin, vous voyez selon la géométrie, la matière. Quand vous êtes dans un corps féminin, vous voyez selon la vibration. Donc, en fait, le jeu sera véritablement terminé quand un masculin et un féminin aura effectivement dépassé le stade christique. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et donc, une fois que cela est fait, quelle que soit la graine, on s'en fout, elle pousse, puisque la graine est androgyne. Hein, je vous rappelle, elle va pousser, et la pomme va disparaître. Donc ça veut dire que la galaxie va disparaître. En clair, ça veut dire quoi? Que la somme de toutes les expériences qui ont été contenues dans la croissance, on va dire, de cette pomme, c'est-à-dire combien s'est fait bouffer par les abeilles ou les bestiaux, les maladies, le bordel, enfin tout ce qu'il y a, eh bien, sera enregistrée en elle. Et comme cela, elle sera enregistrée, quand elle va pousser, devenir, on va dire, un petit arbuste, eh bien, elle rendra au sang-nom exactement tout ce qu'elle aura ingurgité. Parce que c'est un esprit. Donc, il ne faut pas regarder l'aspect matière. Donc, même quand la matière va, on va dire, disparaître, en fait, elle se transforme. Puisque je vous rappelle que la matière n'est ni plus ni moins qu'une information bouclée sur elle-même. Donc, la géométrie éclate et on appelle ça une fusion. Donc, il y a bien des galaxies qui naissent et il y a bien des galaxies qui meurent. Quand une galaxie meurt, c'est qu'elle a rempli son rôle, elle est devenue une pomme, et puis, maintenant, elle devient un arbre. Voilà. Donc, quand il y a un arbre qui pousse, ben, c'est une nouvelle galaxie qui est en train de pousser. Et donc, le cordon d'Eléa, c'est ni plus ni moins, ben, on va dire, un nouveau cordon pour aller fabriquer une nouvelle pomme. Bon. C'est vraiment expliqué simplement, mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple. Alors, pour... maintenant, on va passer à la partie, on va dire, un peu rigolade. Parce qu'il faut bien quand même un peu. Hein? Eh bien, vous allez me dire, tout est sphérique, là c'est vachement bien, mais vous savez qu'il existe aussi ce que j'appelle les pommes cubiques. Hein? C'est pour le plaisir, hein, puisque je vous avais parlé que ici, il fallait faire la relation entre. On peut faire les relations, bien sûr, entre les cubes et les temps. Eh bien, voilà. Là, je vous apporte la preuve fondamentale qu'effectivement, il existe des pommes carrées, enfin cubiques. Alors, souvent, dans cette pomme aussi, nous avons une autre notion qui apparaît, c'est qu'on a l'impression que c'est un véritable labyrinthe. Or, croyez-moi, ce n'est pas un labyrinthe. Parce que pour être un labyrinthe, eh bien, il faut, comme dirait l'autre, être un bestiau qui court là-dedans. Or, ce bestiau, c'est quoi d'après vous? Eh bien, ça s'appelle avoir le ver dans la pomme. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui, le ver, et ce ver, vous allez comprendre, c'est quoi? C'est votre mental. Hein, votre mental égo. Donc, votre mental égo, lui, il veut se balader, il veut savoir. Alors, comme dirait l'autre, accéder à la connaissance, au savoir, il y a des endroits, ça bloque, il faut refaire demi-tour, et puis on n'en voit pas la sortie. Ah, rien n'est simple. Parce que, comme dirait l'autre, la pomme est verrouillée. Donc, comme elle est verrouillée, ça ne peut pas aller plus loin. Donc, comprenez que votre principal, on va dire, problème, c'est le ver. Et le ver, c'est celui qui croit qu'il est la pomme, mais que la... Vous comprenez que ceci, votre ego, c'est quoi? C'est quelque chose qui dit, moi j'ai mon existence, mais si la pomme n'était pas là, il n'existerait pas. Il se nourrit de la pomme. Enfin bon, je vous laisse réfléchir un peu, puis travailler un peu sur le sujet. Alors, il y a aussi une autre chose dans une pomme, c'est que là, je voulais couper, on va dire, sur le plan vertical. Et si on le coupait sur le plan maintenant équatorial, eh bien sur le plan équatorial, ça donne ça. C'est là qu'on voit que c'est extrêmement intéressant, parce que, comme dirait l'autre, on voit un petit bonhomme. Ah ah, ça devient vachement intéressant cette affaire. Et d'ailleurs, les gens qui ont voulu vraiment faire quelque chose, on va dire, dans leur vie, et qui ont laissé une trace, on va dire, dans l'humanité, eh bien, nous avons l'exemple type. Il n'y a pas été par quatre chemins. Alors, il s'appelle Steve Jobs. Et là, il était jeune. Hein, il était dans la vingtaine avec une pomme. Et son symbole, c'est, je crois, dans la pomme. Hein? Donc, Steve Jobs, il a bien créé la société Apple. Apple qui veut dire pomme. Alors, il faut être américain pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que aux États-Unis, il y a, on va dire, une notion de pomme. Alors, le pomme, ça veut dire c'est bon à croquer, c'est-à-dire on va pouvoir faire du fric. Donc, il y a logiquement cinq grosses pommes aux États-Unis. Donc, il y a New York, il y a Los Angeles, puis bon, les trois autres, je m'en fous, il y en a d'autres, mais bon, il y en a cinq. Hein, ils appellent ça les pommes. Donc, les cinq grosses pommes, c'est dire si tu arrives à te monter en tant qu'entrepreneur et à les bouffer dans une pomme, tu vas devenir milliardaire. Donc, c'est le symbole, vous voyez, que derrière un pauvre symbole basique, eh bien, il peut se cacher, on va dire, des notions beaucoup plus élaborées quand on les regarde de beaucoup plus près. Alors, dans cette vidéo, j'en ai profité, je ne l'ai pas mis sous forme de dessin, on va dire, mais j'ai regardé cette pomme sous un autre angle, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que quand vous regardez une pomme, vous avez tout devant les yeux. Hein. Alors, ce n'est pas la gravitation que vous avez sous les... parce que bon, ça s'est tombé, on va dire, sur la tête de Newton, mais Newton, il n'a pas été plus loin. Hein. Bon, c'est déjà pas mal, hein, puisque bon, ça a inventé d'une certaine manière la science newtonienne, excusez-moi, hein, c'est-à-dire de dire un corps suit certaines lois, etc. Donc il a découvert ce qu'était la gravitation, c'est-à-dire la force qu'il y a, on va dire, dans ce vortex. Parce que je vous rappelle, c'est la gravitation qui passe entre les deux, la gravitation. Et nous sommes dans un monde électromagnétique. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. Et pour vous montrer qu'en fait, quand on coupe une pomme, eh bien, on peut y voir des choses extraordinaires. Alors maintenant, bah, j'ai pris une pomme, donc une photo que j'ai trouvée sur Internet. Et vous voyez que ce qu'il y a de bizarre, hein, donc vous pourrez vous amuser à regarder, mais c'est quand même assez bizarre. Alors d'abord, on voit toujours un petit bonhomme, hein, c'est-à-dire 5. Et là, j'ai remarqué ces points. Et je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre. Ça me rappelle quelque chose. Et donc, dans une vidéo précédente, je vous avais raconté ceci. C'est-à-dire, c'était la fleur de vie avec les différents corps et les différents trucs. Et maintenant, ben, vous allez voir qu'on va s'amuser un tout petit peu pour vous faire comprendre que derrière une pomme, il y a une géométrie que vous n'imaginez même pas. Alors, pour donner, on va dire, corps à ce que je vous raconte, eh bien, je vais tout simplement commencer à prendre, on va dire, un cube. Vous voyez, je vais prendre le cube ici et regardez. Ne trouvez-vous pas que ce cube suit quand même relativement pas mal, on va dire, quand même la coupe. C'est quand même dingue, hein? Trouvez pas, non? Hein? Alors, quand on voit ça, on va se dire, bah ouais, mais là, si je prenais carrément la fleur de vie que je la pose là, ça devient intéressant. Ça devient vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Parce que, bien sûr, je peux continuer à déballer toute la fleur de vie que j'avais là. Hein. Mais après, bon, c'est une histoire d'échelle. Et si vous vous rappelez, donc j'ai bien mon dessin là, et rien n'a changé, ben, vous pouvez voir qu'il y a bien. Alors après, c'est juste une histoire d'échelle au niveau des cercles, mais globalement, ici, vous aviez une couche extérieure, vous aviez donc la fleur de vie en elle-même, ici, hein, qui était délimitée par ceci, qui correspondait donc au fameux cube 12 par 12. Mais vous voyez que le cube 24 par 24, il est là. Et ceci, c'est tout simplement l'écorce de la galaxie. Donc quand vous regardez une pomme, vous regardez la galaxie. Et vous regardez aussi l'homme. Alors maintenant, bah, on va, si vous voulez s'amuser en allant un tout petit peu plus loin, on va se dire, tiens, 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 tiens. Si maintenant alors je vais ôter un peu quand même parce que ça va surcharger un petit peu trop. Je vais ôter, on va dire, bon, pas forcément faire de vie, enfin on va voir, c'est pas grave. Ici, si je prends monicosaèdre, on va dire là c'est intéressant, monicosaèdre, je vais essayer de le placer dans le temps là. Alors bien sûr, il n'est pas forcément à la bonne taille. Hein, il n'est pas forcément à la bonne taille, il n'est peut-être pas orienté correctement. Alors, je peux gentiment l'orienter. Hein, mais bon, vous imaginez bien que ce n'est pas forcément parfait tout ce que je fais. Mais l'idée est là, et vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, bien, on va dire, je vais agrandir mon icosaèdre. Et vous voyez, je vais arriver quand même à le faire tenir dans le temps quand même. Hein, j'agrandis. Je trouve ça quand même assez sympathique. Vous ne trouvez pas, non? Hein? Alors, on sait que dans chaque cercle, hein, là où il y a un cube, il y a forcément un icosaèdre, il y a forcément un dodécaèdre, hein, qui va dedans, etc., etc. Donc ici, c'est juste une histoire d'échelle, puisque à chaque cube, nous savons qu'il y a un icosaèdre et un dodécaèdre dedans. Donc là, j'espère que vous commencez à comprendre que la géométrie sacrée, c'est pas seulement sur du papier. Alors, maintenant, le petit bonus, le petit bonus, le petit bonus. Alors, on voit que ici, j'ai bien mon icosaèdre. Alors, mon icosaèdre, eh bien, je vais vous le présenter là. Attendez, je vais le prendre en faisant ça. Ici, j'ai un icosaèdre. Vous voyez, bon, c'était la représentation qu'il y avait là au départ, hein, avant que je fasse la rotation comme ça. Hein. Donc, je le remets dans son état initial. Et globalement, donc, on a bien le même icosaèdre. Sauf celui-ci, contrairement à ce que... à ce qu'il est, il a un petit chapeau, c'est-à-dire je décide de couper, hein, de couper tout simplement l'icosaèdre ici. Alors je le coupe, et que vais-je voir à l'intérieur? Je vais voir tout simplement, parce que quand je relie les points ici, hein, vous voyez, bon, je vais faire comme ceci, hein, je vais faire ça, et eh bien vous allez voir que vous avez bien votre pentagramme qui est là, quoi. C'est-à-dire que si je coupe mon icosaèdre à l'étage, comme on dit, hein, eh bien j'ai bien un pentagramme. C'est normal puisqu'on va retrouver forcément le fameux dodécaèdre. Hein. Je vous rappelle que dans un dodécaèdre, dans le cube, il y a bien un dodécaèdre, donc on va retrouver un dodécaèdre à ce niveau-là. Et ben, vous avez, quand vous reliez, vous avez tout simplement le pentagramme. Donc nous savons tous que le pentagramme est la représentation du chiffre 5 et donc de l'homme. Voilà, donc c'était la petite découverte, tac, hein, vous voyez, le petit chapeau, hein, donc à l'intérieur d'un icosaèdre, vous avez effectivement la partie, on va dire, du chiffre 5. Alors, vous allez dire, waouh, super, classe. Eh bien, regardez bien, je vais vous bon, je vais boucher encore un coin là, si vous voulez, c'est que quand vous regardez ici, la base est ici, c'est-à-dire vous avez la tête, les bras, les jambes. Ben, si vous vous mettez là, si je coupais celui-là, vous auriez le truc totalement inversé. C'est-à-dire que vous auriez, excusez-moi, je fais contrôle. Et hop là. Voilà. Alors, je fais ceci, vous voyez. Et au lieu, là, je ne peux pas le recopier. Mais par contre, si je le tourne de 180 degrés, je vais avoir ceci. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose qui semble opposé. Et comprenez bien que ceci est la représentation. Par exemple, si on dit ça c'est l'homme, ben ça c'est la femme. Ils sont inversés l'un par rapport à l'autre. Et si le truc qui tourne, ben il y en a qui tourne à gauche et l'autre qui tourne à droite. Enfin, c'est l'impression qu'ils ont. Donc, voyez que quand nous parlons, et comme je vous avais dit précédemment, que ici, le jeu en termes d'ascension se terminera au niveau de la galaxie, quand un couple, c'est-à-dire un homme et une femme, auront touché les 24 dimensions. Vous en avez la preuve par l'icosaèdre lui-même. Cet icosaèdre, eh bien, nous le voyons ici. Nous le voyons ici, tout simplement. D'accord? Puisque vous l'avez là. Donc, voyez que maintenant, je suis sûr que quand vous allez manger une pomme, vous allez peut-être la couper sous un angle différent et de regarder et dire, ouais, viens, non. J'avais ça sous le nez, mais j'ai rien vu. Et combien de milliards de gens mangent des pommes? Combien de milliards de gens ont une idée quelconque sur ce qu'ils sont en train de croquer? Voilà. Donc, c'était juste un petit plus pour rigoler un tout petit peu et vous montrer que derrière les choses simples de la vie, tout est autour de nous. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.